parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver après avoir fait une route avec les martyrs d'Algérie. Ensuite, nous avons suivi Charles de Foucault. Je vous invite cette semaine à suivre les pas de Joséphine Bakhita. Joséphine Bakhita est née en 1869 et décédée en 1947, est une ancienne esclave soudanaise devenue sainte, peu connue en Occident, contrairement en Afrique. Bakhita est une fille du Darfour. Le Darfour est une région de l'ouest du Soudan et était habitée par des tribus non-arabes. Les ethnies sont soit islamisées depuis le XVIIe siècle, soit attachées à certains rites païens ancestraux, soit christianisées. Quand ils n'ont pas été réduits en esclavage, de nombreux aborigènes ont essaimé au loin pour subsister. Ils utilisent l'arabe comme langue officielle, langue religieuse et langue de l'enseignement. Mais ils ont gardé leur propre culture. Bakhita, qui veut dire la chanceuse, comme on la surnomma à partir de ses 9 ans, le traumatisme de l'esclavage lui fit oublier en effet son prénom origine. Elle est née en 1869 à Olgossa, dans la montagne. Elle se souvenait bien de son village, des palmiers, des bananiers et d'énormes baobabs les protégeant contre les rayons du soleil, des fleurs avec de grandes pétales aux couleurs vives. Autour, une vaste plaine. Sa famille est aisée et assez nombreuse. 3 fils, une fille déjà mariée et mère d'un enfant, et Bakhita elle-même. Son père est même le frère du chef du village. Le village de Bakhita est animiste. L'animisme attribue à tout objet une présence mystérieuse et puissante qui dépasse les hommes. Bakhita est imprégnée de cette ambiance, mais à cause de son jeune âge, elle n'a reçu aucune initiation religieuse. Elle dit cependant n'avoir jamais adoré d'idole et qu'elle aurait beaucoup moins souffert si, pendant son long esclavage, elle avait connu le vrai Dieu. À la demande de la sœur supérieure de la maison canossienne de Schio en Italie, mère Margherita Bonotto, elle dicte à une de ses consœurs, mère Teresa Fabris, le récit de sa vie. Ce sera le journal d'une esclave. Elle écrit, je cite, comme le désire la révérende mère supérieure, je dicte ici quelques faits relatifs à mon esclavage. Que tous ces souvenirs servent à me faire toujours apprécier davantage le grand don que Dieu m'a fait en me choisissant pour épouse. Elle écrit, je vivais parfaitement heureuse sans savoir ce qu'était la souffrance. Une enfance pleine de rudes épreuves. En 1874, alors qu'elle n'a que 5 ans, sa sœur aînée est enlevée par des pillards qui ont aussi saccagé le village. Je cite Bakhita. Un jour, ma mère voulut aller dans les champs où nous avions beaucoup de plantations et de bétail pour voir si tous les ouvriers faisaient bien leur travail et elle voulait que tous les enfants nous la suivions. La grande, qui se sentait indisposée, demanda de rester à la maison avec la petite sœur et on lui donna la permission. Sauf que, tandis que nous étions au champ, nous avons entendu le bruit d'une bousculade, des cris et des gens qui couraient. Nous avons tout de suite pensé que c'était les négriers entrés dans le pays pour voler. Nous sommes rentrés tout de suite à la maison et quelle ne fut pas notre douleur d'entendre la petite, toute épouvantée et tremblante, raconter comment les ravisseurs avaient emmené sa grande sœur. Elle avait juste eu le temps de se cacher derrière le mur d'une maison en ruine. Autrement, elle aurait été enlevée, elle aussi. Je me souviens encore de toutes les larmes qu'a versées ma maman, et nous aussi nous avons beaucoup pleuré. On n'a jamais plus rien su de notre pauvre sœur. Ce fut ma première douleur, et combien d'autres allaient m'attendre encore. En 1878, Bakhita, à l'âge d'environ 9 ans, est enlevée à son tour. Je cite son journal. Après le petit déjeuner, je suis allé avec une de mes compagnes de 12 ou 13 ans faire une promenade dans nos champs, un peu éloignés de la maison. Après avoir interrompu nos jeux, nous avions l'intention de ramasser des herbes. Tout à coup, nous avons vu déboucher 2 étrangers armés à la mine patibulaire. Arrivé à notre hauteur, l'un d'eux dit à ma compagne, Laisse cette petite venir dans le bois pour me chercher un paquet. Elle reviendra vite, continue ta route et elle te rejoindra tout de suite. » Je ne me doutais de rien. Je me suis mise à obéir comme je faisais toujours avec ma maman. Dès que je suis entrée dans le bois, j'ai vu les deux hommes derrière moi. L'un m'a saisi brusquement avec une main et de l'autre, il a tiré un gros couteau de sa ceinture. Il l'a approché de ma hanche et m'a dit d'une voix impérieuse « Si tu cries, tu es morte. Avance, suis-nous. » Tandis que l'autre me poussait en pointant le canon d'un fusil dans mon dos, je suis resté pétrifié de peur. Les yeux exorbités et tremblants de la tête aux pieds, j'ai essayé de crier, mais un nœud à la gorge m'en empêchait. Je ne réussissais ni à parler, ni à pleurer. Elle a pour destination Tavesha, centre de regroupement d'esclaves, situé à 180 km à vol d'oiseau de son village natal. Finalement, ils arrivent au marché des esclaves et sont introduits dans une pièce. Bakita attend son tour avec sa consœur du nom de Bina. Un jour, elle s'enfuit avec Bina, mais elles sont reprises puis vendues à un marchand d'esclaves de passage qui les mène, avec d'autres, à El Obeid, la capitale du Kordofan, centre caravanier sur la route menant du Tchad à la mer Rouge. C'est alors que, comme au marché à bestiaux, le maître, maquignon pour humain, arrive, accompagné par le chef de la caravane, et son regard d'expert toise ses malheureux. Bakita et Bina sont conduites chez le chef des Arabes. C'est un homme très riche, ayant déjà de nombreux esclaves, tous jeunes. Elles sont achetées et mises au service de ses deux filles. L'intention du maître est de les offrir à son fils lorsqu'il se mariera. Ce dernier la traitera avec une telle brutalité qu'elle va rester près d'un mois sans pouvoir bouger. 3 mois plus tard, en 1879, alors qu'elle a 10 ans, elle est vendue à nouveau à un général de l'armée turque qui ne sera guère plus humain. Puis Bakita est rachetée par le consul d'Italie Callisto Legnani. Nous sommes en 1883. Ce n'est pas encore la liberté totale, mais une évolution radicale. Je cite « Je n'étais pas encore libre, mais les choses commençaient à changer. » Fini les fouets, les punitions, les insultes, bref, les 10 ans de traitement inhumain. Durant 2 ans, Bakita aide la femme de chambre en vivant une vie normale et en 1884, elle part pour l'Italie. Le consul Callisto Legnani fait cadeau de la jeune fille au couple Micheli, Augusto et Maria. Elle suit alors sa nouvelle famille à son domicile de Ziagnigo, hameau de Mirano Veneto près de Venise, et pendant 3 ans, elle occupe la fonction de gouvernante. Elle découvre que les Italiens ne veulent pas les enfants pour les vendre et les réduire en esclavage. Bakita est non seulement correctement traitée, mais bien logée. Elle dispose d'une chambre spacieuse avec des fleurs devant la fenêtre. Elle joue le rôle de nounou à l'égard de la fille des Micheli, dénommée Mimina. En 1887, Illuminato Cicchini, un homme droit et au grand cœur, qui n'est autre que le gérant de la Torina Micheli, lui donne un crucifix en argent. Bakita se sent poussée à le dissimuler de peur que Torina Micheli ne lui prenne. C'est la première chose qu'elle possède de toute sa vie. Illuminato intervient alors pour négocier l'entrée de Bakita à l'Institut des catéchumènes. Et le 29 juillet 1888, Bakita et Alice y font leur entrée. La religieuse qui l'accueille questionne un peu Bakita. « Voulez-vous connaître Dieu ?» Et devant un oui enthousiaste et 2 fois répété, sa formation va pouvoir commencer. Elle sera transportée par la vie de Sainte Madeleine de Canossa, fondatrice des Filles de la Charité canosienne. Elle aussi veut s'occuper des pauvres, faire connaître Jésus-Christ. À demain.